Donc, juste très rapidement, bonjour. Donc, je suis Martin Fauché, bardé de sac. Donc, je suis ici conseiller artistique au festival. Et donc, j'ai juste le plaisir de vous vous présenter Philippe Ken, qui est enfin à Montréal avec son équipe pour présenter l'effet de Serge, qui a commencé hier soir au théâtre du Conservatoire et qui va se poursuivre jusqu'à dimanche soir. Dimanche après-midi peut-être. Enfin, dimanche après-midi. Donc, Philippe, donc, va vous partager un peu ses réflexions sur le théâtre et sa façon de travailler, la façon qu'il aborde le travail scénique. Alors, je suis vraiment très, très, très content que vous soyez là. Voilà, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. Donc, à compter de maintenant, c'est Philippe qui mène.
Attends, voilà. Oh, ça fait trop bizarre. Ça ne résonne pas trop, c'est bon? Tu peux mettre peut-être moins fort, on n'est pas beaucoup, je sais pas, je vais me mettre là. Oui, donc bonjour. Effectivement, c'est la première fois qu'on vient au Canada avec un spectacle, et même d'ailleurs dans la vie en général. Mais on a eu la première hier, et quand ils m'ont proposé de faire un atelier, je ne savais pas non plus du tout qui serait là. Donc peut-être que je ne vais pas demander à tout le monde qui fait quoi, mais peut-être après ça peut être chouette. Qu'on ait le temps de se parler. Ben moi, je ne suis pas très pressé après, donc je ne sais pas combien de temps on va se parler. J'ai amené pas mal d'images parce que je me suis dit faire un atelier pratique, je ne suis pas sûr de voilà. Donc, j'avais envie de relater un peu comment la compagnie s'était inventée et comment je me suis retrouvé par hasard à faire de la mise en scène. Et aussi, du coup, un peu un historique des spectacles parce qu'il y a des liens de l'un à l'autre. Donc j'ai préparé un petit diaporama, n'est-ce pas, commenté. Et puis ça va sûrement être un peu confus, donc vous pouvez m'arrêter parce que il y a peut-être des images que je vais pas passer dans l'ordre et tout ça. Mais... voilà, parce que en fait, certains sont venus au spectacle hier, par exemple. D'accord. Et il y en a qui comptent y aller. D'accord, donc je ne parlerai pas de l'effet de Serge. Non, je veux dire, j'avais prévu pas mal d'images aussi de l'effet de Serge, mais peut-être que c'est... On verra tout à l'heure, je peux aussi raconter le processus, mais pas forcément tout décortiquer de ce spectacle, si certains viennent le voir. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, je viens plutôt d'une formation d'école d'art, donc il y a fort longtemps. Donc, de graphisme et ensuite de scénographie aux Arts Déco à Paris, qui était à l'époque une école qui formait pas du tout à la scénographie de spectacle, mais plus des installations ou des gens qui ensuite se retrouvaient plus souvent à travailler dans la muséographie pour des expositions ou un travail personnel. Donc c'était un drôle de moment. Et beaucoup d'élèves qui sortaient de cette école finalement commençaient à faire des spectacles ou devenaient décorateurs pour des metteurs en scène. Ce qui a été mon cas. Et du coup, pendant près de 10 ans, j'ai travaillé comme scénographe, aussi en faisant la lumière ou le son pour des spectacles, avec toujours l'idée qu'un jour, j'allais faire mon spectacle, mais on se retrouvait à travailler pour des gens, des fois très longtemps. Et au bout de 10 ans, par contre, j'en ai eu marre, mais je pensais, toujours dans un coin de ma tête, j'avais envie d'écrire une pièce. Et du coup, ça a mis du temps à se faire, voilà, parce que j'ai dû en fait abandonner un peu le travail de scénographe pour me consacrer à l'écriture du premier spectacle que Martin d'ailleurs a dû voir en 1946, qui s'appelait La démangeaison des ailes, qui était la première pièce qu'on a conçue ensemble, parce qu'il y avait déjà quasiment le même groupe de travail à l'époque. Donc ça, je vais en parler aussi, parce que c'est pas un choix de les garder, c'est qu'on... Le premier spectacle s'est vendu et j'étais obligé de garder tout le monde, et ça a dégénéré, en fait, puisque quand je l'ai conçu, j'imaginais pas du tout que ça allait tourner. Donc la vie d'un groupe est née de ça, mais c'était des amis au départ, et ça a été très troublant que ça constitue un groupe, quoi. Et j'ai même appelé ça une compagnie, mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire d'avoir une compagnie. J'étais en bonne compagnie avec eux, mais c'était vraiment une question. Il y avait plus le désir de faire un spectacle et pas du tout de réfléchir à ce que ça voulait dire de constituer un groupe, de chercher de l'argent, d'en recevoir et de vivre avec ça. Donc ça a été une drôle de parcours parce que cette première pièce a été prévue pour une sorte d'atelier de 2 jours dans une petite ville en France, à Dijon, avec tout le monde gratuit, enfin tout le monde que des amis que j'avais osé inviter. Plus facile de pas payer les gens quand c'est des amis. Et du coup, on a connu une première proposition de le reprendre à Paris, ce qui a un peu voilà évolué et nous a permis de tourner avec cette pièce que j'avais pas appelée pièce en plus. Mais ça, je vais en parler avec les photos. Donc, je vais faire carrément l'espèce de truc conférence. Oula. Alors, c'est super chic. Déjà, le dispositif est pas mal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plein d'images. Vous m'entendez? Ouais. Alors, attends, je vais repartir à zéro. C'est dans le désordre. Liste. Donc, je vais vraiment vous faire le petit historique. Ce spectacle que j'avais nommé La démangeaison des ailes, en fait, je ne savais pas du tout que ça deviendrait un spectacle. Donc j'avais le titre, et c'est d'ailleurs depuis devenu une façon de travailler, je pars du titre, et je me demande vers quoi on va avec un groupe que je réunis. Et ce spectacle, nommé La démangeaison des ailes, pendant longtemps, j'ai d'ailleurs pensé que ça serait une exposition. J'avais pas du tout imaginé que ça déboucherait sur une narration et un temps comme ça. Le projet a commencé dans cet appartement. Je montre cette photo exprès. On nous avait prêté un appartement abandonné quelques mois. Parce qu'en fait, j'avais aussi envie d'être tranquille pour préparer ce travail, et j'avais un peu honte d'appeler des théâtres en disant « je vais faire un spectacle qui s'appelle La démangeaison des ailes, je ne sais pas ce que ça va être, je ne pouvais garantir aucun nombre d'acteurs, j'arrivais pas du tout à savoir dans quel gens contacter, quoi demander pour préparer ça. Donc le plus simple pour moi, c'était de m'isoler dans cet appartement. Après, il a été dit qu'on n'avait pas d'argent, mais c'était aussi presque un choix pour être tranquille. Parce qu'en France, on peut aussi demander des sous. Il y a quand même des façons de pouvoir produire, mais il se trouve que là, j'étais plus tranquille d'appeler des amis. Et donc, tous les week-ends, je faisais des petits bouts d'essai dans cet appartement. Puisqu'en plus, ce thème de démangeaison des ailes, pour moi, était une sorte d'envie de collecter des matériaux très différents sur l'envol, et qui donc... a été l'objet de quelques mois qui sont partis dans tous les sens avec des lectures. Un copain que je faisais venir le week-end pour lire des poèmes, un autre qui montrait des peintures d'oiseaux, un sociologue ou un philosophe qui venait de me parler de l'envol. Enfin, plein de gens sont passés dans cet appartement comme des rendez-vous tous les week-ends. Et le travail dans ce lieu a eu des conséquences parce que cette espèce de moment que je vivais avec toutes ces personnes et de petits fragments, j'ai commencé à me dire, peut-être ce spectacle, personne ne l'a vu, donc je peux dire n'importe quoi. Quelqu'un l'a vu, La démangeaison? Mince. Disons que c'était un spectacle qui, du coup, même à l'arrivée, est devenu une forme assez hétéroclite, une envie de collage et du coup une narration multiple. Mais tous ces petits bouts... j'ai eu envie de les réunir et l'appartement est devenu très intéressant comme aussi un rapport à l'atelier. Donc quand la question de transformer ça en spectacle est venue, j'ai immédiatement pensé à transposer cet appartement en décor et qui du coup permettait de reconstituer aussi tous les moments qu'on avait vécu avec tous ces différents performeurs, amis, témoignages, puisque la pièce en fait mélangeait des gens qui venaient témoigner, des actions, un danseur qui tentait de s'envoler avec un faux simulateur de vol, des gens que j'avais interviewés en vidéo, un collectionneur de maquettes d'oiseaux, plein de gens, un prof de tai chi qui parlait de l'envol. Enfin, je me suis dit, je vais rien trier d'une certaine manière, et tous ces petits fragments vont constituer le spectacle. Et ensuite, s'est établie une partition assez précise, d'ailleurs, malgré la nonchalance des petits humains dans cet appartement. Et du coup, c'était vraiment un spectacle qui jouait de toutes les correspondances entre vidéo, action, et des objets aussi, et des gens qui vivaient dans cette espèce d'espace atelier. Ouais, en fait, voilà. Alors, la baie vitrée, je fais une espèce de... Attention. Voyez-vous cet angle vitré? Eh bien, donc, c'est venu de ça. C'est-à-dire que cet appartement a eu des grandes conséquences, graves conséquences, parce que en travaillant avec ce balcon dehors, on a eu assez vite l'idée d'un home studio, enfin de faire un, de le considérer comme un studio de radio un peu. Ce qui fait que dès le début des répétitions dans cet appart, j'ai mis un micro derrière et cet espace vitré était presque comme une sorte de cabine d'enregistrement. Donc, un espace d'ailleurs attribué, dès qu'il y avait du texte à dire, il y avait un micro, comme on voit là. En fait, c'est exactement le salon, hein, ça partait en L. Il y a même le frigo. En fait, on a quasiment transposé en mousse polystyrène le volume de l'appartement qui était le lieu de travail. Alors, c'est toujours dur en photo de voir le contenu, mais par exemple, ce spectacle jouait beaucoup de correspondances, de relations que le spectateur pouvait créer ou relier, par exemple, entre des extraits de texte lus par Gaëtan au micro, un danseur qui tentait de s'envoler avec cette machine. Au fond, on aperçoit Cyril, un autre acteur, qui collait des plumes pendant une heure. Donc aussi des jeux sur des temps différents, à la fois des actions extrêmement fragmentaires et aussi des gens qui vivaient dans cet appartement. Et donc, pour le spectateur, des différents temps à observer. Puisqu'en fait, Cyril collait un costume en plume pendant une heure. Donc on se rendait compte qu'à la fin, ce que ça devenait. Donc voilà. Et à la fois, par souci économique, mais pas que, est venue l'envie de travailler avec des matériaux. Je vais peut-être pas mal parler de scénographie aujourd'hui, parce que ça a aussi des conséquences sur l'écriture. Et c'est vrai que ça, ce sont des pièces qui s'inventent comme ça. Et comme je vais vous montrer les 6 années qui sont passées, peut-être qu'il y a des correspondances d'un spectacle à l'autre qui sont intéressantes, d'autant que en regardant à nouveau les images, je me rends évidemment compte que pour ceux qui ont vu l'effet de Serge, il y a aussi une baie vitrée, que ça joue aussi beaucoup sur des situations de entendre ou pas entendre. Il y a ses amis qui arrivent par derrière la vitre, donc il y a des éléments récurrents comme ça de l'écriture. Maintenant, au bout de 5-6 ans, je me rends compte que je reprends, que je réutilise des choses et que ça m'intéresse aussi. Qu'il y a même un certain recyclage, puisque par exemple, le plexiglas de cette cabine est devenu le plexiglas de Serge 6 ans après. C'est un détail, mais cette idée de recyclage me plaît et aussi, du coup, de garder la troupe le plus possible, parce qu'il y en a qui ont craqué depuis ou qui ont arrêté le métier. Mais j'aime bien l'idée de continuer ensemble. À tricoter un peu nos projets. Bon, là, ce spectacle, c'était donc en 2003. En plus, il y avait la régie à vue. Bon, à l'époque, je le referai plus, mais ça avait donné aussi ce sentiment de proximité avec les acteurs, puisque moi, je pouvais aussi décider au dernier moment de mixer des séquences entre elles ou de diffuser ou pas le son de la cabine. Donc, il y avait une part très écrite et aussi un truc un peu aléatoire de mix, pratiquement. Enfin, où le son avait une importance puisqu'il permettait de focaliser sur des parties de la scène. Oui, j'ai montré une photo en plein jour. Voilà, on voit ces matériaux complètement simples qu'on achète au magasin de bricolage, des mousses. Et au fond, il y avait c'était donc en 2003, en France, on était gavé de nouvelles technologies. C'était l'apparition de technologies qui d'ailleurs permettait de demander de l'argent juste pour ça, mais c'était le comble, parce que moi je venais aussi d'un... Comme scénographe, j'utilisais beaucoup des images vidéo. Enfin, j'avais pas forcément envie, mais je travaillais avec des metteurs en scène qui souvent me disaient « je vais faire Hamlet moderne, donc ce serait bien qu'il y ait de la vidéo ». J'étais plutôt en résistance, mais quand on a questionné ce premier spectacle, et le désir d'envol passant aussi par des machines, et ça a donné envie de... d'utiliser ce... D'ailleurs, c'était complètement bidon. Donc le comédien se reliait avec des pinces de voiture, les, les chaussures à un ordinateur qui marche pas, et c'était un simple dessin animé. Donc en fait, c'était tout ce truc de motion capture, mais évidemment, simplement le danseur suivait le dessin animé et pas l'inverse. Mais ce qui nous a quand même valu d'être invités dans des festivals de nouvelles technologies, curieusement, avec même une ambiguïté dingue, parce que j'avais pensé forcer un peu le trait en mettant vraiment des pinces de voiture. Il mettait comme ça sur ses chaussettes, c'était quand même... Mais on a eu des gens spécialistes de la motion capture qui ont même félicité le performeur, parce qu'il paraît, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais qu'on leur apprend qu'en général les ordinateurs buguent, et qu'il faut que le performeur fasse semblant que tout va bien. Donc, bon, il y a eu une drôle de trouble et de vrais faux assez intéressants. Voilà. Surtout qu'on avait... Ah oui, alors, il y avait quand même de la vidéo, mais, comment dire, par défaut. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dont ma mère d'ailleurs, là, qui est prof de philo, il y a des gens que je ne pouvais pas physiquement... faire venir pour 2 jours à Dijon, donc j'ai décidé de garder des vidéos d'entretiens que j'avais fait avec des personnes intéressantes, et ça a fait aussi partie de l'écriture, voilà, même si c'était projeté sur des bouts de papier. Et à droite, Emilien, qui est maintenant comédien dans la compagnie, qui était un comédien professionnel, et ça me faisait culpabiliser de ne pas pouvoir lui donner de salaire, donc j'ai proposé de l'enregistrer. Il lisait des petits bouts de Beckett où il chantait comme ça, il y avait sa présence pendant 1 heure en vidéo, donc voilà, ça permettait d'avoir Emilien avec nous, mais de sans l'engager, quoi. Donc c'est drôle comme des contraintes deviennent des fois des idées un peu, voilà. Et en même temps, des bouquins qui étaient restés du travail dans l'appartement, des voilà. Et avec cette idée de boîte vitrée est venue aussi l'envie de parfois de la considérer comme un studio d'enregistrement de musique. Et donc, parmi un des thèmes de démangeaison des ailes, j'avais envie de prendre des gens qui font de la musique très énervée, au sens de démangeaison. Donc, il y avait un groupe punk dans chaque ville qui venait faire un morceau très très fort pendant 3 minutes, comme des invités, finalement, dans une émission de radio. Donc, le spectacle, on va dire, était hyper précis, je savais exactement à quel moment le film correspondait au groupe qui venait jouer et tout ça, mais on gardait à l'intérieur de cette pièce des invités vraiment surprises, si je puis dire. D'ailleurs, la plupart des groupes venaient et démontaient le matériel, parce que souvent c'est des gens qui allaient jouer dans des bars. On arrivait dans une ville, on demandait un groupe punk, mais la plupart avaient des spectacles à faire le soir dans un bar. Donc réellement, on avait le démontage des instruments. Voilà, là on voit le... Voilà. Et donc, c'est aussi été le début de pas mal de d'éléments de notre théâtre depuis. C'est-à-dire aussi des espaces qui sont des lieux de vie pour les acteurs, où il y a à peu près tout ce qu'il faut si on devait être condamné à passer quelques jours ensemble dans cet endroit. Ce qui est de toute façon le cas des répétitions, où tout le monde est obligé de se supporter 1 mois, 2 mois. Donc il y a toujours de quoi manger, boire, se reposer, regarder des films, écouter de la musique. C'est pour ça que, bizarrement, la compagnie s'est appelée Vivarium Studio. Et je pense que dans cette idée de regarder un peu l'humain comme un petit monde, et des petits mondes comme ça autonomes de Vivarium, ça m'a intéressé dès ce spectacle. Oui, on voit là une tentative d'envol, mais je sais pas, de vidéo, mais voilà. Et cette idée, en fait, en plume, j'ai juste mis 3 images parce que quand je voulais raconter, en fait, c'est vraiment au départ des amis différents. J'avais dit, je vais faire un spectacle sur les démangeaisons des ailes. J'avais d'ailleurs imaginé à l'époque ne faire qu'un solo avec Gaëtan, qui est là, qui joue Serge, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit, je vais faire un petit spectacle de lecture de poèmes sur l'envol, et puis j'ai pas d'argent, ça va aller. Et puis ça a dégénéré. Donc chaque personne à qui je racontais que j'allais faire un spectacle sur la démangeaison des ailes me disait, j'aimerais bien participer. Donc, et ce copain Cyril qui est derrière m'envoyait toutes les semaines par internet des photos de ce qu'il était en train de faire chez lui, c'est-à-dire la confection de ce costume en plume, pour essayer de me convaincre de l'engager. Et donc, c'est sûr que quand j'ai reçu la dernière image, celle-ci, j'ai dû effectivement l'engager et lui dire, écoute, l'idée d'ailleurs de le prendre avec son objet et du coup de l'intégrer dans un temps différent. Comme je disais tout à l'heure, il mettait pendant une heure, il collait ses plumes. Donc là, c'est faux, pendant le spectacle, il avait un polochon, mais voilà, il a été engagé pour faire ça. Et d'ailleurs, le spectacle terminait comme ça, il chantait Zizi Jean-Mère, mon truc en plume, déguisé comme ça. Voilà, et c'est peut-être aussi le début d'un ton un peu spécial pour Gaëtan, qui quasiment pendant le spectacle ne lisait que des titres de livres sur l'envol et la chute. Parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à choisir un texte plutôt qu'un autre. Et finalement, la poésie procurée par la liste des livres d'une bibliographie était assez belle. Et du coup, Gaëtan était à ce micro quasiment tout le spectacle et lisait plein de titres de livres qu'on avait lus, parcourus. Et je pouvais décider de monter le son ou pas. Ce qui est assez frustrant pour un comédien, on peut dire, mais voilà, il y avait aussi un jeu comme ça. Et Rodolphe, qui est maintenant aussi dans l'équipe, avec son chien Hermès, qui est venu le jour de la première, parce que j'avais appris qu'il avait adopté un chien qui s'appelait Hermès, donc animal ailé, ça rentrait très bien dans le thème. Et donc il venait raconter qu'il était plasticien et qu'il avait un chien. Ce qui a aussi dégénéré, puisque le chien est avec nous depuis 7 ans. Parce que depuis ce jour-là, on s'est rendu compte qu'il adorait jouer, et ça a été terrible de devoir travailler avec un chien. Je n'avais jamais pensé ça, et j'aime pas spécialement les chiens, mais ce chien doit être un peu une réincarnation d'un acteur célèbre. Et il se trouve que, voilà, il a joué avec nous, vous verrez des photos plus tard. Il y avait des citations de films, là c'est Superman, par exemple. Tout était pathétique, parce qu'évidemment dans l'envol, c'est aussi ce qui rate, et c'était que des ratages. Voilà. Spécialement aussi, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des garçons d'une trentaine d'années à l'époque. Et aussi un thème sans doute était intéressant. Je m'étais pas rendu compte que c'était que des garçons qui ratent des trucs, réunis dans un appartement un peu crado en buvant des bières, et donc on pouvait aussi observer ce thème-là sans doute. La Gaëtan tente de s'envoler avec une fusée d'artifice. Ce qui d'ailleurs sans doute a donné l'idée plus tard de faire l'effet de Serge, en reprenant Gaëtan comme un bricoleur. Voilà. Sébastien, qui n'est plus avec nous d'ailleurs, mais... Voilà, donc ce premier spectacle, qui en plus a eu la chance de voyager, parce que finalement, cette façon de travailler avec des matériaux pauvres, ça me dérange. D'ailleurs, on en parlera peut-être en détail après, si, mais... Comment dire, c'est un jeu double. Il y a un plaisir de matériaux bruts que j'ai réellement comme scénographe, mais en même temps, ça a répondu à une économie les premières années assez intéressante, parce qu'on a pu comme ça aller dans des pays où finalement on allait acheter des matériaux aussi pauvres pour refaire le décor dans chaque ville, et ce qui a permis quand même de répondre à des questions économiques de tournée qui est assez important dans ce qu'on vit dans les spectacles, et surtout quand on est une jeune compagnie. Je trouvais, pour inciter à la diffusion d'un objet. Voilà. Donc il n'y avait pas 4 Smirmorques, et ce qui a toujours été le cas après, d'ailleurs. Jusqu'à présent. Je continue ou vous... Bon. Alors, j'avais mis un peu les spectacles dans l'ordre, parce qu'effectivement, depuis 2003, il y en a eu plusieurs. Il y a eu La démangeaison des ailes, une pièce qui s'appelait Des expériences, d'après nature... Effet de Serge, Mélancolie. Donc là, je vais vous montrer Des expériences, qui n'est pas vraiment une pièce, qui s'est beaucoup moins jouée que les autres, qui est la pièce intermédiaire où j'ai décidé de me remettre au travail avec l'équipe avant même de savoir si on allait pouvoir vivre ensemble. Donc on a de nouveau préparé cette pièce, je dirais en cachette, sans solliciter un théâtre. Ça a été un spectacle dont le point de départ était une envie de questionner les menaces environnementales, enfin les menaces du monde Je me suis dit, bah, prenons un gros sujet, le monde va mal. Et je suis tombé sur un livre dément qui s'appelle, enfin dément, effrayant, qui s'appelle Le Dictionnaire des risques et des catastrophes, qui a été publié en France il y a 5 ans, qui en fait relate tous les mots sur lesquels l'humain devrait être très alerté pour les 10-15 ans qui viennent. Donc c'est une sorte d'abécédaire affreux, avec les maladies, les problèmes de société, qui confronte le mot sida à Céveso, maladie nosocomiale, Exxon Valdez, à la fois des catastrophes écologiques et des situations sociales et curieusement, à partir de cette liste de mots, j'ai eu envie de faire un spectacle. C'est-à-dire de me demander comment l'artiste, face à tous ces mots terribles, ou ces problèmes, ou ces choses, comment l'artiste peut agir et comment, même hébété face à tout ça. Et c'est devenu un projet silencieux. Alors, je sais pas. Ouais. C'est-à-dire que c'était quasiment de l'ordre j'ai appelé ça des expériences parce que c'était réellement, même pour nous, une expérience de voir quel sens prenaient les mots quand on les confrontait à des actions d'artistes, on va dire, ou de la musique. Donc une liste d'ingrédients très simple. Et au mur ici, on voit. Attends. J'ai une flèche ? Non. Par exemple, là, il y a écrit Génération future. Les mots passaient sur des murs blancs. Là, c'était dans une galerie. Et les mots étaient envoyés, disons, toutes les minutes et venaient donner du sens où étaient. Il y avait aussi des relations qui s'établissaient entre ce qui était déplacé, joué, posé, par rapport à tous ces mots qui défilaient comme une installation vidéo pratiquement. Et c'était que des petits bouts de test. Donc c'était. D'ailleurs, des ingrédients qui sont restés dans les spectacles. Qu'est-ce que ça donne quand on joue de la flûte à bec sur le mot radiophobie? Qu'est-ce que ça donne quand on demande plein de tests, habillés, pas habillés, des objets? Rodolphe, qui avait envie de confronter une sculpture à cet espace. Donc il n'y avait pas de mots prononcés par les comédiens. C'était quasiment des déplacements dans un lieu, un projet assez plastique, on va dire, pour résumer. Un peu de musique, mais vraiment, on a procédé par test même physique dans l'espace. D'ailleurs, mais c'est marrant, il y a de la moquette violette là, d'ailleurs, je m'en rends compte. Ah ouais, bon, vous allez retrouver un grand bout de moquette violette maintenant. Et c'était d'ailleurs les plaques sont le sol de la démangeaison des ailes, parce que quand je dis qu'il y a des matériaux qu'on retrouve, il y a un recyclage réel d'une pièce à l'autre. Ça, c'était un ami plasticien Rodolphe, qui avait envie de me proposer cet objet. C'est des chapeaux en papier qu'il avait appelé objet à communiquer avec l'autre ou l'au-delà. Voilà, donc pendant un moment ils avaient ça sur la tête. Beaucoup de situations étaient de l'observation d'objets et le groupe était un peu comme des visiteurs d'expo. Là je me suis dit, d'ailleurs, deuxième spectacle, on n'est pas encore en train de faire des mouvements très très énervés. Il commençait à s'inventer un peu un langage peut-être corporel qu'on a retrouvé depuis. Voilà, et ça finissait d'ailleurs avec l'invasion de l'espace par des sortes de tentes igloo. Qui moi me faisait penser à des. Enfin, il y avait un côté de questionner notre futur à ce moment-là, c'était étrange. Cet objet-là qui est apparu dans tous les magasins de sport, ou de. Qui après d'ailleurs est devenu la tente des SDF, là, il y a 4 ans. Enfin, en tout cas, à Paris, il y a une invasion de ces tentes-là pour loger des gens sans domicile. Mais moi, ça me faisait penser à des couveuses, une sorte de monde un peu bizarre, de science-fiction, un peu pauvre, comme ça. Entre la couveuse d'œufs. Et puis en même temps, il y avait à cette époque les réunions d'altermondialistes qui passent beaucoup de temps à se réunir et qui ne peuvent pas non plus grand-chose à part faire des fêtes et boire des coups sur des collines perdues. Il y avait un truc un peu désespérant dans l'objet qui me plaisait. Voilà, donc c'est devenu. Et le spectacle était très triste. Non, mais à la fin, ça finissait avec l'invasion de l'espace par des tentes comme ça, dans de la fumée, une image un peu étrange. Voilà, mais c'était pas destiné à être un spectacle qui tourne. Et alors la particularité, c'est qu'on nous a invités à le jouer dans plein d'endroits, y compris des lieux extérieurs. Et la première proposition a été de nous dire, voilà, j'ai ce parc. Un type dans un château a dit, j'ai ce parc l'été, venez adapter votre projet expérience à cette situation de nature, qui était complètement l'inverse de notre galerie blanche, mais qui a eu des graves conséquences aussi sur le travail, puisque depuis ce moment passé en vraie nature, la nature est arrivée dans les spectacles. Donc je trouvais bien de vous montrer ça. Et donc on a commencé à se demander comment transposer tout ce qu'on avait fait dans la galerie. Ça, c'est une photo de répétition, parfois très compliquée de répéter. Je me suis demandé comment transposer ce qui était finalement que des déplacements de gens qui se baladent dans un espace, qui regardent ces mots ou pas. Et en fait, au lieu simplement de marcher, on s'est demandé... mais ça, en plus, parce que les comédiens participent à la réalisation des... c'est pas un commando, c'est... Voilà, donc ça, c'était un essai, par exemple, pour mettre le panneau. Donc les mots étaient projetés sur un panneau dans l'eau, mais finalement confrontés aux mêmes éléments. C'était exactement les mêmes ingrédients, sauf qu'effectivement, dans le paysage, c'était complètement différent et sublimé par rapport à cette nature magnifique. Donc là, on retrouve d'ailleurs la scène des tentes, qui était à la fin, mais dans ce lieu. Et puis l'ambiance d'un lac la nuit, dans une forêt, il y avait un truc un peu angoissant. Là, c'est la scène avec les chapeaux, sauf qu'évidemment, dans l'eau, ils étaient obligés de nager. Ce qui donnait, ce qui est du coup transposé en ballet nautique certaines scènes. Surtout que là, il faisait à peu près moins 10. Donc c'est devenu ça a soudé le groupe, comme on dit. En plus, ce spectacle, c'était très particulier à répéter, on va dire. Et du coup, on a après commencé aussi à être invité dans des festivals pour le décliner. Donc parfois il y avait des nouveaux éléments. Ça c'était à Paris. Donc cette fois j'avais eu envie de faire. On avait été invité par Festival Quartier d'été, qui est un festival de l'été. Donc là les gens étaient. Et là j'avais envie de mélanger les murs et la nature. Et il y avait des scènes à la fin où l'espace était envahi de bagnoles, qui est aussi le début des voitures dans les spectacles. Ce qui fait que dans nos listes d'expériences, je me suis dit, tiens, mais il pourrait venir regarder les mots en marchant, et puis si tout le monde vient en voiture, c'est troublant aussi. Ça a été un test. Donc j'avais demandé à 20 personnes de venir en voiture le soir. Voilà. je passe vite celui-là parce que c'était juste, ça remet dans le contexte la pièce d'après. Qui a été une étape importante. Bon, d'une part parce que je me rendais compte que ça faisait 2 ans que ça y est, la compagnie était constituée, des amis étaient devenus des gens avec qui je travaillais, on a commencé à se payer, et on a eu une première proposition de coproduction, comme on dit poliment, avec un théâtre à Paris, à la Bastille, qui nous a assez tôt suivis. Donc j'ai découvert organiser, payer des acteurs en répétition, commencer à se dire on va s'isoler 2 mois. C'est des questions curieuses d'ailleurs quand j'y repense, parce que les deux premières pièces se sont inventées complètement de façon empirique. Et c'est presque le paradoxe maintenant et le luxe. Bien sûr, là par exemple je prépare une pièce, elle est tout le monde est payé, je sais qu'elle va tourner. Mais on doit aussi promettre un résultat, alors qu'à l'époque, curieusement, je démarrais l'écriture, je savais même pas combien il y aurait d'acteurs à la fin. Du coup, c'est la première pièce où j'ai dit, un an avant, voilà, ça va s'appeler D'après nature, avec un jeu de mots parce qu'on sortait de la nature, et puis que j'avais envie de prolonger ce thème des menaces écologiques, mais aussi... Et aussi, du coup, de prévoir d'engager ces 7 acteurs qui constituent la troupe. Voilà, donc ça a été une question avec cette pièce. Et par contre, les dispositifs scéniques ne sont jamais prévus à l'avance avant de commencer le travail. Donc là, vous avez une vue du décor tel qu'il était, mais je démarre le travail avec rien du tout à part le titre quelques intuitions d'objets que j'ai envie d'utiliser, mais aussi quelque chose qui est devenu presque une règle, c'est de prendre la dernière minute du spectacle précédent pour recommencer, comme se dire on va se forcer à recommencer, ou pourquoi pas recommencer en partant d'un motif. Donc les tentes étaient réutilisées, et donc à l'inverse de tous ces lieux naturels dans lesquels on avait passé du temps en 2004, j'ai eu envie de travailler en prélevant un bout de nature, un petit bout de monde. Aussi en référence, on avait pas mal regardé les projets américains, la biosphère, ces espèces de parcs d'attractions où on prélève un peu le monde, toutes les plantes, 10 hommes, 10 femmes, comme si pour faire des expériences, comme si la planète, on pourrait envoyer aussi des bulles dans l'espace avec un petit monde. Tu l'avais vu, Martin, ce spectacle ? Bon, cela dit, ça a été un bide total, ce spectacle, parce que c'était notre première production et ça a joué deux fois en France. Après, enfin, on avait prévu de le jouer un mois à Paris, mais il n'y a eu aucune vente de ce spectacle. Donc j'ai aussi découvert que le métier pouvait s'arrêter très très vite, sans pouvoir en reparler. C'est-à-dire qu'on était, comme on dit, une compagnie émergente. Enfin, je ne sais pas si on dit ce mot-là ici. Donc c'est un mot comme ça, très, très chouette, qui est apparu, mais qui peut aussi être un gros piège. Parce que là, j'ai vécu une première à Paris assez étonnante avec 150 professionnels et pas une personne a acheté le spectacle. Donc c'était un drôle de moment. En plus, c'est une des pièces qu'on préfère, nous, mais bon, c'est pas grave. Je m'égare, faut pas que je parle de ça. Mais alors, pour cette pièce, plusieurs choses étaient très importantes. Ce thème de menace environnementale était important, et pour moi surtout une question étonnante, encore une fois, d'un sujet que l'humain n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de réunions, des protocoles de Kyoto qu'on signe pas, beaucoup d'humains se réunissent pour ne rien décider, et donc de cette idée de est venue l'envie de travailler sur ce spectacle. Et une deuxième chose importante, c'est qu'effectivement on vit une drôle de fin du monde annoncée, qui n'est pas du tout celle des années 50-60 où la fin du monde était représentée avec des araignées géantes qui détruisaient la planète super violemment, des extraterrestres fous. L'ennemi était un monstre, quelque chose qui allait nous envahir. Beaucoup de films ou de romans de science-fiction étaient comme ça à l'époque, et on vit effectivement une fin du monde beaucoup plus silencieuse et faussement et sournoise, où en fait on est tous en train de crever, plutôt dans les aliments qu'on mange, dans l'air qu'on respire. Donc une sorte de fin du monde très calme, anormalement calme. Et de cette envie est venu un principe de ce spectacle, qui était que la pièce était entièrement chuchotée. Donc j'avais à la fois envie de qu'il y ait du texte, mais j'avais pas envie qu'on entende les acteurs. C'est un peu la contradiction avec le théâtre, et je me suis demandé comment transposer cette idée-là pour que ça soit anormalement calme, tout. Et donc, on a travaillé avec des surtitres, comme des bulles de bande dessinée. Donc, tous les dialogues des acteurs étaient projetés, comme ça. Donc, quand ils avaient un truc à se dire, ils allaient dans des endroits du décor. Alors, c'était très réglé. Les dialogues étaient assez quotidiens, même, voire banals, puisque c'était la vie d'un groupe qui se demande comment sauver le monde. Mais le principe formel qui est venu de cette idée de fin du monde silencieuse était important pour cette pièce. Ce qui fait qu'on observait ça comme un tableau. Je ne sais pas si on... J'ai pas d'autres images de... Attends, je regarde si j'ai... Non, attends. Donc c'était de nouveau la vie d'une petite communauté qui décide de sauver le monde et d'aller tous ensemble réparer la couche d'ozone. Donc quand même un message d'espoir, parce que j'ai toujours pensé que si on était d'accord et qu'on formait des communautés, il y avait de l'espoir, quoi. Même si ça peut prêter à rire de voir des gens se réunir, fabriquer des casques en polystyrène, faire un trou dans le décor pour aller réparer la couche d'ozone. Voilà. Donc, on voit les titres au fond. enfin les mots par exemple projetés, et aussi de nouveau un espace auto, je dirais autonome dans la scénographie, c'est-à-dire incluant le son, la lumière, de quoi manger, de quoi faire de la musique, comme je disais tout à l'heure. Donc encore un espace où quasiment on arrive dans un théâtre et on demande de quoi se brancher. Il y a souvent dans les dispositifs, bon là il y avait un plafond suspendu, mais c'était comme un gros container où tout était à l'intérieur. Et ça aussi c'est devenu une règle du travail, c'est d'essayer d'avoir des décors qui incluent tout, y compris le son et qui fait partie du coup de la boîte, ou comme dans ceux qui ont vu l'effet de Serge, finalement, on est dans un système très simple avec des fluos suspendus et à peine des quelques sources derrière dans le jardin, mais il n'y a vraiment jamais grand-chose. Je dirais que, ouais, par exemple, il n'y a jamais eu d'acte de projecteur accroché pour l'instant depuis 7 ans. J'espère que ça va continuer. Voilà, donc une petite partie jardin un peu dérisoire. Personne l'a vu ce spectacle ? Non. Et aussi des questions de vrai et de faux qui étaient aussi là dès cette pièce. Donc là, un poster, de la vraie nature. Il y avait énormément de chansons parce que le fait que les acteurs n'aient pas besoin d'être audibles, il y avait beaucoup de musique et beaucoup de musique folk parce que je me disais, c'est une espèce de doux rêveur. J'aimerais bien les situer dans un. Je sais pas, il y avait un retour du folk et ça me plaisait avec le rapport à la nature. Donc j'ai ceux qui ne savaient pas jouer de la guitare ont laborieusement appris quelques morceaux pour que tout le monde à un moment donné touche l'instrument et qu'il y ait cette espèce aussi de groupe musical qui se crée. Ça c'est la fin du coup où joyeusement les humains étaient enfin d'accord et allaient tous réparer l'ozone. Voilà. Donc ils mettaient des casques et joyeusement ils allaient faire un trou dans le décor et tout le monde s'échappait par le plafond. Voilà. Ce qui fait qu'on laissait que le chien tout seul dans la boîte qui hurlait, c'était un peu triste. Et cette pièce, bah d'ailleurs, donc l'effet de Serge, donc c'est aussi pour vous prouver que c'est vrai quand Gaëtan, au début de l'effet de Serge, dit qu'il était en cosmonaute. Voilà, c'est donc ce spectacle. Et celui-là aussi, on a été invité à le faire dans la nature, par le même farfelu qui a des châteaux et des jardins, et qui était aussi une drôle d'idée, parce que moi j'avais vraiment pensé enfermer la nature dans une boîte, et finalement en même temps cette transposition un peu comme un tournage de nuit est devenue assez intéressante. Donc du coup, les mots en plus, donc toutes les scènes étaient les mêmes, et on a mis la même chose en scène sur cette petite butte en pleine forêt. Pardon. Attends, j'essaie de montrer un truc. Ah oui, non, on voit pas. Enfin, les mots étaient projetés sur un panneau. Donc, dès qu'ils avaient un truc à dire, ils allaient. Non, ça, c'est des photos de répétition. C'est juste pour vous montrer en vrac comment ça se travaille. Mais parce que quand je dis qu'il n'y a pas de dispositif avant de commencer les répétitions, c'est vrai. Et donc c'est tout ce qu'on peut faire simplement. Donc là on commençait à essayer les branches, donc on avait mis des branches sur des pieds de micro, deux trois panneaux qui traînaient de l'ancien spectacle, voilà, et toujours pareil dès le début, de quoi se reposer, de quoi manger. Là il y avait vraiment de quoi faire à manger. Donc dans l'endroit où on a répété, il y avait déjà ces éléments là qui pouvaient se mettre en place, et aussi des vieux fragments, le sol de la démangeaison des ailes, le premier spectacle, les lampes qu'on avait achetées à l'époque, etc. Voilà, voilà. Ouais, complètement. En fait, en plein air, c'est bête, je voulais montrer un extrait hyper pourri des répétitions musicales, mais je ne l'ai pas. Parce que Emilien est pathétique, il ne savait vraiment pas jouer de la guitare. Ben, la boîte était totalement abandonnée, donc c'était finalement étonnant parce que les situations étaient les mêmes. Non, parce que finalement, on n'avait que les instruments de musique et les casques. Et les machines à fumer. Par contre, il y avait cette question de trouver une transposition pour s'échapper et partir dans le ciel, réparer l'ozone. Donc il y avait une adaptation parce qu'il partait derrière la colline et on voyait une petite fusée monter dans un arbre un peu à la Ed Wood. Bon, c'était moins réussi que le trou dans le plafond. Mais voilà. Mais d'ailleurs, c'est quand même grâce à cette pièce qu'on a. Parce qu'en France, ça a été vraiment un échec retentissant et décevant, parce que je me suis vraiment dit que c'était pas facile et j'avais eu peur de perdre l'équipe. Parce que dès qu'on vend plus une pièce, finalement, eh ben, on peut plus promettre du travail à un ensemble, et j'avais peur de qu'on se perde, en fait, moi je me voyais très bien relancer un spectacle, mais je me disais c'est dommage, on va devoir se quitter, les comédiens vont trouver du travail ailleurs, ceux qui sont devenus comédiens, parce qu'il y en a plein qui ne l'étaient pas, et donc cette année-là, heureusement, en Allemagne et en Autriche, ils ont trouvé que c'était un opéra magnifique, pièce musicale, donc on a été un peu sauvés par un théâtre à Berlin qui est devenu très fidèle, maintenant le Hebel à Berlin, qui du coup par contre nous a promis une production pour faire la suite. Donc ça a été quand même bizarrement une année où on a passé 2 ans sans jouer en France, avec plutôt des soutiens en Autriche et en Allemagne, des fidélités qui se sont créées à ces années-là, très importantes pour la compagnie. Voilà, donc ce qui a permis d'imaginer La Mélancolie des Dragons, que peut-être que certains ont vu. Ouais. Bon, alors attends, alors je vais sauter, du coup. Alors là, curieusement, après cette pièce-là, j'avais prévu de faire La Mélancolie des Dragons, mais je ne sais pas pourquoi, l'été, on avait commencé avec Gaëtan à faire des essais sur ce projet nommé L'Effet de Serge, qui du coup est venu s'intercaler, parce qu'on a eu envie de créer cette pièce en cours de saison. Et alors, je vais peut-être pas montrer grand chose si jamais vous venez certains. Enfin, c'est pas grave. Puisque. Voilà, donc ça, c'est le motif qui est repris d'Après Nature avec Gaëtan. Donc, par contre, pour reparler du principe d'écriture, peut-être. J'ai démarré ce spectacle, comme les autres, en disant « ça va s'appeler L'Effet de Serge ». Et j'avais très envie de travailler avec Gaëtan. Il se trouve que c'était l'année, justement, où on avait du mal, qu'on a un peu accusé le coup de ne pas vendre les pièces. Et Gaëtan est un de ceux qui habitent à Paris. Donc, j'ai d'abord pensé faire un solo avec lui, autour de la question de « qu'est-ce qu'on peut faire en une minute ?» Donc, avant que ça devienne un spectacle avec 10 personnes, un décor plus ou moins réaliste d'appartement, curieusement, ça a été pensé comme une espèce de projet, je dirais, de performance, où pendant un mois et demi, j'ai travaillé qu'avec Gaëtan sur tout ce qu'il pouvait faire en une minute, comme une liste. Donc ça pouvait être marcher, manger un sandwich, lire un livre, jouer de la musique... pour ceux qui ont vu, les petits spectacles faisaient partie, hein, des minutes, mais on a répété un mois et demi et ils devenaient fous presque, enfin, on était au chronomètre. Et j'avais aussi hésité entre un titre de pièce qui aurait pu s'appeler « Sans conséquences ». Donc c'était 100 choses de une minute à faire par Gaëtan. Voilà. Et j'étais limite de... On a même fait un chantier où j'ai fait ça, à Marseille, et finalement c'est devenu une pièce... Curieusement, il y avait un côté très mécanique dans la façon de travailler avec Gaëtan, qui a sans doute nourri le personnage. Et pour ce spectacle, c'est arrivé très très tard que je me dise je vais le faire dans un décor et je vais finalement inventer une fable qui mettrait en scène cet artiste amateur nommé Serge, qui présente des spectacles de une minute pour ses amis. Ce qui fait que j'ai fait venir les autres acteurs une semaine avant la première, en fait. Mais c'est vraiment venu de l'écriture. C'est-à-dire que même quand le décor d'appartement, l'idée est arrivée, Gaëtan était tout seul, comme dans cet espace désespérément vide. Mais c'était tellement triste que... Donc en fait, c'était les mêmes situations quasiment que ce qu'il joue tous les soirs. Donc il mettait des chaises vides et il disait « Bonsoir, je vais te présenter... ce soir, effet roulant sur une musique de Handel, mais devant une chaise vide comme des gamins font. Voilà, sauf qu'on était complètement déprimés avec Gaëtan de voir ça. Donc par effet de composition, je dirais, j'ai fait venir des gens dans la partition, mais finalement Gaëtan il a continué de jouer. Alors peut-être que ça a créé un état de jeu d'ailleurs troublant, parce que pour ceux qui ont vu la pièce ou pour ceux qui vont venir, il est un peu dans un état flottant comme ça, qui vient peut-être de ce travail. Donc c'est pas volontairement pour faire de acteur studio immergé ou dans la solitude l'acteur pour qu'il travaille sur son personnage, mais c'est vraiment venu de hasard de composition, et aussi cette idée de dans chaque ville du coup de garder cette fragilité et de faire venir des acteurs qui sont les amis de Serge dans chaque ville où on présente la pièce. Voilà. Et l'autre détail de recyclage, c'est que cette boîte grise, c'est donc notre décor de D'après Nature peint en gris. Il y a juste une baie vitrée inclue dedans, qui est la baie vitrée de la démangeaison des ailes. Voilà, parce qu'on avait fait une belle boîte en bois qui ne tournait pas, et je me suis dit on va la repeindre en gris. Mais ça aussi, c'est drôle, c'est aussi un jeu de formel qui après m'intéresse. Bon, après je vais pas tout montrer, mais voilà. Donc ça a été créé à Paris en 2007 et c'était pas destiné à tourner, mais finalement ça a aussi beaucoup voyagé depuis 2 ans avec pas mal de transpositions, puisque le décor est souvent reconstruit à l'étranger. D'ailleurs il a été reconstruit ici puisque finalement c'est des panneaux assez simples. Et d'ailleurs il y a Felipe qui est du Brésil, mais chez qui on a joué à Salvador de Bahia, une super version avec des acteurs brésiliens, et où le décor aussi avait été refait là-bas. Et la voiture était une coccinelle brésilienne. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez peut-être m'interrompre par des questions, ou bien... Je ne sais pas si ce que je dis, c'est intéressant. Alors, oui, non, un truc important, c'est que je vois maintenant que dans des programmes où je me rends compte que les gens peuvent résumer nos spectacles par la fable, c'est sûr. Si on dit, d'après nature, un groupe d'humains s'accordent et fabriquent ensemble des costumes de cosmonautes pour réparer... le ciel ou l'effet de Serge, un artiste invite chez lui des amis, c'est possible. Mais nous, finalement, quand on travaille, là, il n'y a aucun acteur de l'équipe qui est là, mais on pourrait parler du jeu. Ils ont l'impression d'exécuter des actions. Ils ont pas, en fait, on travaille pas du tout sur un sentiment de psychologie. Je crois que Gaëtan, quand il joue Serge, continue à penser des rapports au temps, à l'espace, au son. Quand il regarde la télé au début... Pour nous, c'est dans la partition, il doit regarder la télé à 3 minutes 52 du DVD, il doit aller chercher un verre, la porte, quelqu'un frappe à la porte quand il entend un chien, c'est presque les Sims. C'est, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo, on donne des consignes, on fait vivre des familles comme ça, un peu la famille idéale américaine, 2 enfants, le chien, dans des zones, dans des pavillons. Et en fait, c'est un jeu qui rend un peu fou, parce qu'on n'arrête pas de donner des consignes à des personnages. Quand ils ont faim, ils perdent leur jauge de vie. Enfin, il faut les sociabiliser, donc il faut aller qu'ils voient des amis. On a répété ce spectacle presque comme ce jeu. Ce qui fait que les acteurs exécutent beaucoup de choses, de listes de choses. Mais je pense que si on posait la question à Gaëtan, et on a des drôles de questions parfois dans des débats d'après-spectacle. On demande si Serge a des frères et sœurs, qu'est-ce qu'il fait le mardi, qui sont des questions presque de situation théâtrale et qu'on s'est évidemment pas posé quand on a inventé la pièce. Et donc la particularité, c'est aussi tout le rapport à la bande-son, aux musiques, qui opère, enfin que j'opère. Donc tous les spectacles, je fais la régie. Il y a quelques effets lumineux et beaucoup de musique, même si elles sont très basses, qui donnent des consignes aux acteurs jusqu'au dernier moment, ou qui peuvent permettre de varier des temps. Donc quand je dis que les déplacements sont précis, mais on peut bouger des choses chaque soir, et d'un commun accord avec les acteurs, je dirais, en fonction des musiques que j'envoie ou que je peux laisser traîner, il y a des temps qui peuvent bouger, ce qui donne ce flottement et qui permet que la pièce s'installe jamais dans des règles trop, je sais pas, dans je sais pas comment te qualifier ça, mais ça crée peut-être un climat étrange entre moi et les comédiens, puisqu'ils sont aussi dépendants, c'est un peu vicieux, mais ils attendent des repères que j'envoie. Voilà, donc pour vous donner un exemple, et c'est pas grave ceux qui vont voir, mais la télécommande de la chaîne stéréo ne marche pas dans l'effet de serre, c'est complètement, c'est bidon, et je peux aussi changer des musiques qui ou par exemple les invités qui sont derrière la vitre sont tous en coulisses et ils doivent venir quand j'envoie un chien qui aboie dans le jardin. Donc je peux aussi retarder ce moment, ce qui rend Gaëtan un peu flottant devant, ou qui se demande qui va arriver, ou enfin qui va arriver, on détermine l'ordre, mais il y a des micro-temps comme ça sur lesquels on peut intervenir. Voilà. Et l'effet de serre se termine sur une scène où Gaëtan explique que l'année prochaine il sera dans un spectacle qui s'appelle La Mélancolie des Dragons, où il y aura des hommes invisibles dans une forêt, enfin dans un paysage de végétation. Et lorsqu'on a créé cette dernière minute en disant l'année prochaine ça va s'appeler La Mélancolie des Dragons, il y aura ça, là, vraiment promis, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Donc pour ceux qui ont vu La Mélancolie des Dragons, on est reparti de ça, et en fait pendant très longtemps, attends, je vais juste faire une vue en accéléré. Voilà, donc cette scène de perruque invisible dans une lumière rouge est devenue le point de départ de La Mélancolie des Dragons, enfin en tout cas de l'écriture de la pièce suivante. Et curieusement, les débuts d'un travail, c'est vraiment comme une enquête ou des recherches, je dirais. Donc on se pose avec l'équipe et on se dit, ben voilà, on a 7 minutes, on a promis de la réutiliser. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça peut se relier au signe contenu dans le titre? Beaucoup d'essais sont faits autour de ça. Donc il se trouve que dans La Mélancolie des Dragons, en gros, la baie vitrée de Serge est devenue... Je vais vous montrer ça. Certains l'ont vu, non, La Mélancolie. À Mylène et... Ouais. En fait, la promesse de Serge... Donc, la baie vitrée est devenue un mobilhome tiré par une voiture. Et cette espèce de minute, dernière minute du spectacle, est contenue dans ce mobilhome. Et La Mélancolie était donc la pièce suivante, créée en 2008, qui mettait en scène, alors si je raconte la fable, c'est donc un groupe de hard rockers perdus dans la neige, en panne, avec la caravane, qui mangent des chips et qui sont en panne, dans une Citroën AX, dans ce grand lieu vide, avec des branches, et les deux pieds de projecteur. Voilà, donc les mêmes acteurs, mais pareil que les autres pièces, à 2 mois de la première, quand on a commencé les répétitions, je peux vous... À part cette histoire de devoir réutiliser les perruques et la lumière rouge, je ne savais absolument pas qu'il y aurait de la neige, une voiture. Ça vient, les essais arrivent dans les répétitions, dans le travail. Et même en appelant ça La Mélancolie des Dragons, je me rappelle, on était parti pour faire une pièce plutôt moyenâgeuse. J'avais envie de questionner, je sais pas, la chevalerie. D'ailleurs, l'absence de dragons a terrassé aujourd'hui sous la forme du Moyen-Âge. Donc, mettre en scène un peu des chevaliers sans quête, sans but. Et les premiers essais d'armure, enfin, avant des essais idiots d'armure, on a acheté des perruques pour faire des chevaliers du Moyen-Âge, et j'ai eu trop l'image des hard rockers et c'est resté. Mais finalement, c'est marrant parce que c'est une trace pour moi de l'envie de plonger ça au Moyen-Âge, et du coup ces espèces de troubadours d'ailleurs viennent de nos essais ratés sur le Moyen-Âge. Il se trouve que la voiture aussi utilisée dans Serge du coup a pu être réutilisée, et cette pièce en fait démarre, ou en tout cas ne démarre pas, puisqu'il y a à peu près un quart d'heure de gens qui glandent dans une bagnole à écouter de la musique comme une sorte de pièce en panne, mais vraiment comme un jeu de mots, c'est-à-dire le plaisir de démarrer une pièce dans une belle image, parce que la neige est un peu le... Moi, j'ai choisi après cet univers comme un espèce de lieu idéal, un peu du merveilleux. Donc, en fait, de plonger un groupe et un spectacle dans une image du merveilleux en panne. Donc, pour moi, ça résumait déjà par la scénographie le thème autour duquel on tournait. C'était un peu un désenchantement. Et ce quart d'heure est activé par Isabelle, qui du coup est une amie de ce groupe qui vient... les réveiller dans leur bagnole pendant qu'ils écoutent Still Loving You et leur annonce en fait qu'ils vont être coincés 7 jours dans la neige puisque la pièce détachée, enfin le comment on appelle ça, la tête de Delco, il faut 7 jours pour la trouver. Donc il y avait un peu un jeu avec la création du monde, ils ont 7 jours pour s'occuper et du coup il lui présente puisqu'ils sont coincés là, il lui diagnostique la panne comme une mer, une sorte de blanche neige. Pareil, un truc étonnant, c'est que ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble, j'avais pas réalisé qu'il y avait que des garçons et une fille, et par des essais en répétition, le motif d'Isabelle est apparu, cette femme et ses 6 garçons, enfin le chien et compte, ces 7 mâles est apparu très fort par des hasards. Je faisais tourner un livre de contes du Moyen-Âge et d'un coup Isabelle l'a lu et ils étaient tous regroupés autour d'elle comme les 7 nains et du coup le motif est apparu et dans l'écriture ça a eu beaucoup de sens et de voilà, donc par des essais de répétition je dirais ça a réellement nourri l'écriture et cette pièce avait des dialogues. Parce que ça aussi, on démarre, là je suis en répétition d'une pièce, la première et le 1er juillet, je ne sais toujours pas s'ils vont parler ou pas. Et dans ce spectacle, les mots sont arrivés très tard. Ça se travaille beaucoup plus avec des situations, des positions. Là je travaille sur une pièce qui s'appelle Big Bang. Pour l'instant, les acteurs ne parlent pas. Tous les essais qu'on a fait de répétition, franchement, je ne sais pas s'il y aura du texte à la fin. Donc c'est quand même un risque, on va dire. Et cette pièce-là, les dialogues n'étaient pas écrits. Donc après... en plus il y avait ce côté un peu mauvais groupe qui correspond bien à un langage assez pauvre mais la pièce est comme une liste d'ingrédients puisqu'ils vont expliquer à Isabelle tout ce qu'ils ont dans leur remorque qui est un projet de parc d'attractions itinérant où elle diagnostique la panne donc elle est donc c'est par exemple ça c'est leur première attraction du parc qui sont l'attraction pour donner envie aux visiteurs, pour faire un peu la promotion du parc mobile, donc les hommes invisibles dans la lumière rouge. Et ensuite, pendant une heure, en fait, ils lui racontent tout ce qu'ils ont. Donc il y a cette espèce de ton et de façon de parler, c'est bête, j'ai pas d'extrait vidéo, mais une espèce de dialogue assez simple s'installe et c'était l'idée de prendre Isabelle comme une spectatrice idéale qui trouve tout génial et tout super, la spectatrice parfaite, voilà. Et ça prolongeait le thème de Serge, de l'effet de Serge, puisque les deux pièces ont été inventées un peu la même année comme un diptyque sur la question du spectacle, qu'est-ce qui fait spectacle. Et donc la situation, Serge a des amis qui viennent voir ces minutes, et là un groupe d'amis reçoit quelqu'un dans son monde. Et ça nous est d'ailleurs souvent arrivé de présenter les pièces, l'effet de Serge et celle-ci, le lendemain, comme un espèce de diptyque, ce qu'on a failli faire d'ailleurs l'an dernier avec le festival, mais on n'était pas libre. Mais voilà, donc comme toujours, on retrouve des éléments. Le fait aussi de pouvoir isoler les acteurs dans des espaces vitrés qui deviennent des petits mondes d'animaux, d'ailleurs avec du son ou pas son dans la cabine, puisque le son est diffusé comme dans la démangeaison des ailes d'ailleurs, la nature qui était présente, donc un décor d'ailleurs très simple, bizarrement, malgré la dimension, puisque ce sont des rouleaux de coton par terre, Et les arbres sont demandés dans chaque ville où on joue, et on les asperge de papier mâché avec une espèce de compresseur, comme les sapins de Noël. Ce qui fait qu'on se déplace... Enfin, finalement, c'est pas si gros, même si ça paraît... Et en fonction des théâtres, les branches changent et tout ce paysage... Voilà. Et comme toujours, il y a des livres. Là, il lui explique les thèmes du parc. Ils ont des attractions avec du ski, donc on peut chausser des skis et rouler sur le coton. Qui d'ailleurs, il y a aussi ce jeu de l'artifice qui est encore une fois mis en scène, puisqu'il lui explique aussi qu'on peut faire de la neige qui roule en roulant la neige. Donc peut-être qu'à ce moment-là, d'ailleurs, le spectateur en est lui-même à peu près trois quarts d'heure de spectacle, a cru à la neige, mais qu'elle est dénoncée, par exemple, dans cette séquence. Elle est dénoncée, mais en même temps, poétisée, on va dire. Bon, parce que la neige qui roule, ça, comme dans Tex Avery, ça nous plaisait. Donc c'est toujours aussi une mise en scène, finalement, de la façon dont on a travaillé, nous, puisque ce parc c'est aussi inventé avec les acteurs. Et il y a pas mal de formes gonflables qui sont utilisées dans le spectacle, comme des espèces d'objets un peu bizarroïdes qui enferment de l'air, qui sont simplement des bâches gonflées, et qui servent au groupe pour faire une parade nocturne pour le visiteur du futur parc d'attractions. Voilà. En même temps, donc on est très vite, à part la piste du hard rock, l'idée c'était comme une fausse piste, parce que finalement il n'y a jamais de hard rock dans le spectacle. C'était plus pour moi des sortes de troubadours avec un espèce de projet utopique de parc naturel. Voilà. Et en même temps, le hasard aussi, c'est qu'à cette l'époque où on avait commencé les répétitions, il y avait un documentaire qui est passé à la télé française sur Metallica. Je déteste Metallica, mais c'est un groupe qui parle de leur dépression. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film. C'est assez dément, en fait. C'est cette espèce de groupe milliardaire qui a eu une panne d'inspiration, si on peut dire. Donc pendant 2 ans, ils n'ont pas enregistré d'album parce qu'ils étaient complètement déprimés. Il y avait un problème avec le batteur, le gars prenait trop de drogue. Et quand on a commencé à travailler avec l'image du hard rock, on a tombé sur ce film. Et c'est assez génial parce que c'est à peu près ce qu'on fait. Et les types, en fait, on les isole dans un endroit pour qu'ils retrouvent l'inspiration. Donc dans une vieille usine, désaffectée, parce qu'ils sont trop riches, alors pour retrouver les vraies valeurs de l'écriture. Donc on les voit dans un espèce de canapé, dans une usine, et puis sous le film, on dit, enfin il y a une légende, et puis on y met 60e jour de studio, 3e mois de répétition. Et les gars, ils ont toujours fait que deux couplets de leurs paroles terribles, c'est vraiment angoissant. Ils nomment un psy pour s'occuper du groupe Metallica. C'est assez dingue, ce film. Si vous avez l'occasion de le voir, on dirait un Beckett, en fait. ils attendent Godot, mais vraiment, on dirait ce documentaire, on dirait En attendant Godot, version moderne, mais c'est étonnant, ce film. Voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, voilà. Alors, ils ont aussi des parades portant les formes. Voilà, c'est vrai que les objets comptent beaucoup, le dispositif compte beaucoup, mais la liberté du comédien aussi à l'intérieur, et comme les comédiens fabriquent les éléments de décor avec moi, ça les implique aussi dans un espèce de travail plastique, d'atelier, et du coup les répétitions ont toujours lieu en parallèle de la construction, ce qui fait qu'on avance autant les idées de jeu, de scène, de situation, que de décor. Ça nous arrive pendant 4 jours, là quand on a fait les formes en plastique, j'ai demandé à tout le monde de participer, même Isabelle, Émilien qui ne sait pas tenir des ciseaux, pour aussi trouver des situations et des idées. Ce qui fait que, comme ils ont pratiqué, oui, là, ils se servent de la forme pour faire la promotion, qu'ils projettent sur le boudin. Euh, il lui offre un Bruegel. Après, des références du travail, j'aime bien les intégrer. Donc évidemment, quand on a commencé avec le décor enneigé, on a pensé à ce tableau. Donc ils lui font un cadeau, il y a des petites fontaines. C'est un parc naturel, donc il y a du vent, de l'air, de l'eau, des bulles. Voilà, et ça se termine par une sorte de parade nocturne avec de la flûte. Il joue Still Loving You, il joue Scorpion, avec des instruments acoustiques. Voilà, et il y a ces espèces de formes qui deviennent un peu un moment, comme une part un peu, ouais, assez mélancolique, mais presque un moment qui échapperait au spectacle lui-même, et on se termine quasiment par la chute de ces espèces de formes noires. Alors peut-être d'ailleurs que j'ai nommé la prochaine pièce Big Bang à cause de ça. Et on est d'ailleurs en train laborieusement de voir ce qu'on va faire de cette dernière image. Je pourrais presque vous montrer. Ah non, mince, j'ai dans l'autre ordi. Parce qu'en fait, on a fait des essais à partir de... Que vont devenir ces objets, ces gens? Voilà, je ne sais pas encore ce que va devenir Big Bang, la prochaine pièce. Attends, rapidement, j'ai peut-être une photo de répétition pour vous montrer. Quand je dis que c'est des essais avec les acteurs, il y a peut-être même du son. Voilà, je sais pas, par exemple, là on a fait des essais, les comédiens, première fois qu'on a fait des trucs gonflables, on nous avait prêté cette espèce de hangar. C'est vraiment ça peut être des essais de ce genre-là, quoi, aussi sur les matériaux. Ça n'a pas servi, ça. Finalement, cette fabrique de trucs qui ne sert à rien est devenue intéressante. Ou alors, les hasards de tournées qu'on a fait, notamment de l'effet de serre en Islande, sont parfois aussi des moments où on travaille, on va dire, malgré nous. Parce que quand on se retrouve à préparer un spectacle qui s'appelle La Mélancolie des Dragons, dans un paysage islandais de ce genre-là, c'est vrai que c'est troublant. Donc là est venue l'envie du parc faussement naturel. Quand on va en Islande, c'est fou, quoi. C'est complètement. On se demande si on n'est pas dans un truc truqué. Tellement la nature est trop vraie pour être réelle. Et par exemple, ça peut être l'occasion. Là, on a fait beaucoup de photos avec les comédiens à qui j'ai demandé de poser dans des endroits naturels, qui ont peut-être nourri le travail à un moment, ça c'est sûr. Et puis d'ailleurs, on avait aussi fait du hard rock qui n'a pas servi, mais je leur ai demandé d'apprendre des morceaux. Là, par exemple, au bout de 2 jours, on a dit pas de musique. Non. C'était plus intéressant de jouer avec l'image, l'attente même de la musique plutôt que la musique. Mais dans les répètes, ça peut arriver qu'on passe par... Et voilà. Et après, finalement, quand je disais que c'est un jeu d'assemblage et de montage, c'est des essais de confrontation. Par exemple, tel bout de texte, demande à Isabelle de lire ce petit conte du Moyen-Âge face à la structure gonflable, pendant que d'autres font des bulles et que d'autres jouent de la flûte, par exemple. Et puis le lendemain, hop, on a pas essayé vraiment les choses en tâtonnant et en utilisant les... Oula, j'ai oublié. Ça n'a pas servi. Bon, enfin voilà. Donc, alors, c'est vrai que d'avoir une partie du groupe qui a fait les beaux-arts ou des écoles d'art, je culpabilise moins, parce que je ne sais pas très bien ce que c'est que de faire travailler des acteurs. J'ai jamais fait de cours d'acteurs. J'ai observé des nombreuses répétitions quand j'étais scénographe, mais en fait, je pense que du coup, on a essayé d'inventer notre propre manière de faire avec ce groupe, et donc ça passe évidemment par pas mal d'essais plastiques. Voilà. Mais Mais voilà. Ouf, non, bon, je vais pas tout vous montrer. On va faire le DVD des trucs auxquels vous avez échappé. Mais voilà, d'ailleurs, non, et c'était un moment où on s'est dit peut-être des marionnettes, peut-être disparition du dragon. Enfin voilà, on passe par plein de bouts. Voilà, mais je sais pas, peut-être. J'ai essayé de relater un peu, je sais pas comment dire. Pour moi, tout se mêle, donc c'était montrer des éléments récurrents du travail. Je sais pas si on voit vraiment comment ça se construit, mais aussi, voilà, façon de vous montrer ça. Peut-être qu'il y a des questions. Oui. Oui, bah en fait, on demande, dans chaque endroit où on joue, on demande 4 ou 5 personnes qu'on ne choisit pas. Donc on demande, là c'est le festival qui a... En fait, je demande 4 personnes en général. Bah d'ailleurs, il y en a une parmi nous. On demande en général une femme ou un homme, 60aine d'années, 2 filles de 30 ans et un garçon. Et donc quand on arrive la veille au soir, on les rencontre. C'est forcément eux, il n'y a pas de casting. On monte la vidéo de la création pour expliquer la partition et quelques codes, quelques consignes en tout cas. Et le lendemain, on répète 2 heures et ça joue le soir. Avec des consignes assez simples. D'ailleurs, hier, c'est un peu... des consignes de... Pour moi, ça doit être des amis de Serge. Donc on s'est rendu compte que... Notamment, par exemple, si Gaëtan propose... C'est toujours ritualisé, tout ce qu'il fait. Donc la personne arrive par le jardin, elle frappe au carreau, et quasiment elle se fait guider par le comédien, sur scène, comme à la maison. Il propose trois possibilités de boissons, vin rouge, jus d'orange, de l'eau. Il suffit de répondre à une des trois. Il faut toujours dire oui à Gaëtan, toujours être d'accord, pour être un ami. Parce que ça nous est arrivé. Donc quand il dit « Est-ce que tu veux boire quelque chose ?» il faut dire oui. On s'est rendu compte que c'est ça, c'est un ami, il est parce que ça nous est arrivé une fois, on a joué plus d'une centaine de fois, mais en Suisse, il y a une dame, le seul échec vraiment de ce spectacle, elle disait non à tout ce qu'il proposait, et là c'était vraiment triste. Donc il lui disait, est-ce que tu veux boire quelque chose? Elle disait, non, j'ai pas soif. Est-ce que tu veux revenir dans 15 jours voir un spectacle? Non, ça ira. Donc en fait, en une phrase, ça peut prendre un autre sens. Après, on répète l'après-midi les situations dans l'espace, mais ce qu'ils disent est libre. Voilà, donc moi je tremble un peu tous les jours de voir les répliques qui s'inventent. Mais ça fait partie du... Ça fait partie de cette pièce-là. Et aussi, finalement, une espèce de possibilité d'aller dans plein de cultures, jouer la pièce. Et c'est très troublant de voir aussi les styles de jeu ou de mélange de langage. Parce que là, grosso modo, on est en français, mais ça nous est arrivé de jouer... Gaëtan est en anglais et on peut avoir des invités allemands ou finlandais ou islandais. Ou on a joué, par exemple, en Corée du Sud, à Séoul. Ce qui fait que les acteurs de Séoul parlaient à Gaëtan, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ce qui fait que c'est une pièce où même nous, on ne sait pas ce qui est dit dans notre propre spectacle.